De retour à l'émission Les amateurs de sport, et maintenant c'est le temps de parler soccer avec notre collègue Vincent Destouches qui célèbre sûrement encore la victoire des Bleus. Salut Vincent!
Salut Jérémy!
Alors premièrement, félicitations Vincent pour la victoire des Bleus. Et ce que je voudrais dire, et ça je le répète souvent à mes amis, je trouve que la récente immigration massive française au Québec est absolument incroyable, fabuleuse. Elle ajoute tellement à notre ville, à notre province. Les Français sont impliqués dans toutes les sphères de notre société et ajoutent tellement de qualité à ce niveau-là. Et de voir ces gens-là pouvoir célébrer ici, dans les rues de Montréal, comme s'ils étaient à la maison, je trouve ça fantastique. J'entendais des extraits de certains Français durant le bulletin de nouvelles qui sentaient vraiment... Ils se sentaient comme s'ils étaient à la maison, tellement il y avait de monde qui fêtait. Là, je trouve ça absolument fantastique. Je ne sais pas ce que tu peux nous partager à ce niveau-là.
Ben écoute, ce qui est sûr, c'est que la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui se vit ensemble. Puis tu sais, c'est une tradition maintenant en France, tu sais, dès que l'équipe de France, les Bleus, va loin dans un tournoi, même pas forcément après une finale, parce qu'on a vu après la victoire en demi-finale face à la Belgique, les Champs-Élysées qui étaient noirs de monde, on se rassemble, on fête ensemble. En France. Alors ici, je pense que les Français qui ont immigré ici ont le même besoin de se rassembler, de vivre ensemble ces événements. C'est le soccer, c'est le sport. L'émotion, ça se partage. Vivre le sport tout seul dans son coin, c'est possible. On peut, parce que ça a quelque chose d'éminemment personnel, c'est passionnel. Mais c'est encore plus beau quand on peut se sauter dans les bras les uns les autres. Et écoute, moi, je veux pas me faire le porte-parole de cette communauté nécessairement française, parce que moi, j'ai l'impression que mon identité, elle est un peu plus complexe. Je suis ici depuis tellement longtemps, je me considère autant français que québécois, j'ai pas besoin de me sentir en France dans ce moment-là, mais c'est sûr que j'ai cette appartenance à ce pays qui fait que je vis ce tournoi passionnément, je le vis comme si j'étais sur le terrain, comme n'importe quel fan, comme n'importe quel passionné qui dit « on est en finale, on a gagné », alors je suis l'un de ceux-là, puis effectivement je suis renversé par le bonheur aujourd'hui.
Bon, parlons un petit peu de ce match qui a débuté, disons-le, bon, un peu bizarrement, puisque les Croates semblaient obtenir, bon, du moins plus de tirs que les Français, mais rapidement, là, avec ce but dans son propre camp, c'était la première fois dans l'histoire d'une finale de la Coupe du Monde qu'une équipe marquait dans son propre but. Griezmann a été absolument fabuleux sur son but, mais sur ce centre aussi. Et tout de suite, on s'est mis, je dirais pas à l'abri, mais un peu au moins à l'aise. On respirait déjà mieux à la mi-temps, là, du côté des Français.
C'est sûr, puis j'ai envie de te dire que cette finale, elle est un peu à l'image de toute cette Coupe du Monde. En partie étrange, en partie spectaculaire, on vibre également, mais il y a des décisions qu'on peut ne pas être d'accord, parce que la vidéo a joué un rôle dans cette finale, on aurait voulu que ce ne soit pas le cas, mais ça l'a été. Et c'est vrai que cette équipe de France, elle a gagné cette finale comme elle a gagné ses précédents matchs avec énormément d'opportunisme en marquant quasiment sur son premier tir. Et ça, c'est arrivé contre l'Argentine, contre l'Uruguay, contre la Belgique. C'est les coups de pied arrêtés également, savoir transformer ces phases de jeu qui, on dit dans le monde du soccer, c'est peut-être un cliché, mais je pense que si on faisait vraiment le compte, on s'en approcherait. On dit que les coups de pied arrêtés, c'est à peu près un tiers des buts dans le soccer. Alors, tu dois travailler ces phases de jeu et ça doit aboutir à quelque chose. On le sait, Jérémy, on en parle assez souvent à l'Impact de Montréal, qu'on ne voit pas assez de buts sur ces phases de jeu et que donc on ne se facilite pas suffisamment les choses. Bah, l'équipe de France, elle l'a réussi grâce à Antoine Griezmann et ça n'a pas été la première fois lors de cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que c'est les Croates qui étaient rentrés un petit peu mieux dans ce match et je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour eux. On sait qu'il y avait un élément, on s'en était parlé, Jérémy, de fatigue qui était évident côté Croates.
On l'a vu là, du côté des Croates.
On l'a vu. Alors, s'ils voulaient faciliter les choses dans cette finale, c'était en prenant les choses par le bon bout, en dominant d'entrée de jeu, en faisant une espèce de tempête et en essayant de marquer. Là, par la suite, peut-être qu'ils auraient pu davantage contrôler parce que plus le match se serait étiré, plus je pense que ça aurait été difficile pour la Croatie. Alors, c'est ce qu'ils ont fait et de toute évidence, ils avaient très bien travaillé tactiquement parce qu'il y a un joueur qui, normalement, côté équipe de France, est exceptionnel en plus de constance, c'est N'Golo Kanté et ils ont réussi à le presser, à l'empêcher de jouer, à l'empêcher de gagner des duels. Donc la Croatie avait très bien travaillé, mais voilà, ils ont concédé un but très opportuniste des Français par la suite. Bon, on a vu ce qui s'est passé.
Oui, absolument. Écoute, et ensuite de cela, on a ajouté deux buts. Bon, malgré la gaffe de Loris, là, qui a quand même donné une certaine frousse parce qu'il restait encore, quoi, 22 minutes à jouer dans le match. C'était 4-2 et c'est le moment où j'ai senti les Croates les plus agressifs. Ils ont retrouvé une certaine énergie à ce moment-là lorsqu'ils ont fait 4-2. Mais ensuite de ça, plus le match avançait, plus ça se mourait, là, malheureusement, pour les Croates. Vincent, ça a été la première Coupe du Monde avec reprise vidéo. J'ai trouvé qu'en général, ça s'est bien passé. Moi, j'ai bien aimé l'utilisation de la reprise vidéo. Aujourd'hui, on a eu un penalty qui était un penalty qui a été appelé suite à la révision du jeu. Sauf que j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus constant parce qu'on a vu dans la phase de ronde préliminaire des jeux semblables où le joueur n'a pas le bras collé sur le corps, touche le ballon avec la main et on n'a pas donné le penalty. Donc, ouais. À ce niveau-là, ça n'a pas été parfait. Mais au moins, ça a été mieux que par le passé où on avait des appels complètement controversés. Là.
C'est là où il faut se rendre compte de c'est quoi la vidéo. Parce que, et ça, on le disait l'an dernier, avant même l'instauration de la vidéo en MLS. Nous, on a un petit peu d'expertise là-dedans parce qu'on a un petit peu de vécu. Mais à un moment donné, il ne faut pas croire, il ne faut pas être romantique là-dedans et se dire que la vidéo va tout régler. C'est impossible. Parce qu'on se rend compte que même lors des reprises vidéo, tu viens de le mentionner, il y a un manque de constance. Parce que d'un arbitre à l'autre, on ne juge pas nécessairement les choses de la même façon. Il y a parfois l'arbitre vidéo qui fait des erreurs. C'est l'arbitre central qui, lui, est un peu plus tolérant ou moins. Alors, il y a ce manque de constance et il y a aussi le fait que parfois, ça peut déclencher un sentiment d'injustice. Dans le sens que le pénalty d'aujourd'hui, par exemple, oui. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas pénalty.
Non, il y a pénalty.
Dites-moi que c'est plate. Je le comprends, c'est plate. Même moi-même, j'ai de la peine pour la Croatie.
Oui.
Mais ça aurait été exactement la même action dans la surface de réparation française. J'aurais dit, il y a pénalty pour la Croatie. C'est plate, mais c'est le cas. C'est la main qui va vers le ballon. S'il n'empêche pas le ballon avec sa main, il y a un centre qui va dans la surface de réparation par la suite. Tu sais pas ce que ça peut donner. C'est le cas, que ce soit le Japon, la France, la Croatie, l'Impact de Montréal, le Real Salt Lake.
Ah ouais, c'est ça. Le but, c'est qu'on ait la bonne décision et on a eu la bonne décision.
Il y a des jeux anodins qui auparavant seraient peut-être passés inaperçus, qui deviennent des pénalties. Et parfois, on a l'impression qu'il y a des choses plus évidentes encore, qui ne se passent pas dans une surface de réparation, qui ne sont pas appelées. Et là, on se dit, il y a un manque de constance. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aujourd'hui en me disant, sur le premier but de l'équipe de France, oui. Il n'y avait pas faute sur Antoine Griezmann, sur le coup franc qui a déclenché le premier but. C'est vrai, sauf qu'on ne peut pas faire la vidéo sur toutes les fautes.
Mais c'est
et
ça.
Voilà, c'est pour ça que ça ne peut pas tout régler.
Non, ça pourra pas tout régler, puis ça, on s'entend là-dessus. Sauf que j'ai mieux aimé l'utilisation de la reprise vidéo dans la Coupe du Monde que ce qu'on voit en MLS. C'est-à-dire que quand il y a doute, on va vérifier. Tandis qu'en MLS, c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a doute, et puis l'arbitre dit « Oh, laisse faire, je vais pas à la reprise ». En tout cas, ceci dit, je trouve que
raison.
Ça...
T'as raison. Et ce que je veux dire là, et je termine là-dessus, je m'excuse de couper, c'est oui. Que faut rappeler pourquoi on a mis la vidéo. On n'a pas mis la vidéo pour tout régler. On a mis la vidéo pour un élément essentiel. Essayer d'éliminer le plus possible des erreurs évidentes.
Oui.
Est-ce qu'on peut au moins se réjouir du fait que, effectivement, il y a des erreurs évidentes qui ont été appelées? Parce qu'on se rappelle, par exemple, en 2010, quand l'Angleterre avait marqué un but contre l'Argentine, le ballon était rentré, il est ressorti, personne ne l'avait vu, ça crée un scandale après. Alors,
exact.
Est-ce qu'on peut se réjouir que des erreurs comme ça soient évitées? Et bon, alors, il en reste d'autres qui ne sont pas appelées, mais au moins, je pense qu'on peut réduire ce genre de choses, et ça, c'est une avancée en tant que telle.
Parle-moi un petit peu de cette Coupe du Monde qui est maintenant, aujourd'hui, terminée. Je sais qu'il est encore très tôt, là. Ça vient de se terminer il y a seulement quelques heures. Mais on va se rappeler de quoi de cette Coupe du Monde de la Russie, selon toi? C'est quoi qui va avoir marqué ce tournoi?
Je pense que c'est la fraîcheur de ce tournoi-là. Alors, je sais que tout le monde va sûrement parler de la vidéo, notamment, et à cause du fait que, comme on vient d'en parler, ça a joué un rôle en finale. Mais ça a été une Coupe du Monde très différente de ce à quoi on était habitué. Je me rappelle qu'il y a 4 ans, on avait le même discours après les phases de groupe. Tiens, il y a des surprises, les équipes terminent pas forcément dans l'ordre qu'on attendait. Les huitièmes de finale, il y a déjà quelques affiches, etc. Mais par la suite, à partir des huitièmes, les grandes nations s'étaient reprises. Puis là, la logique, c'était... quelque peu imposé. Là, cette année, ça a été vraiment, écoute, surprise sur surprise. Ça n'a pas arrêté après les phases de groupe. L'Espagne éliminée par la Russie, le Brésil qui se fait sortir par la Belgique, l'Allemagne qui passe même pas la phase de groupe, Portugal face à l'Uruguay et compagnie. Ça a été excitant pour ça. Et ça, ça montre c'est quoi le soccer d'aujourd'hui. Le soccer d'aujourd'hui, c'est qu'on a beau dire que la Croatie, c'est une poignée de millions d'habitants, on a quand même un Luka Modric qui peut peut-être remporter le Ballon d'Or à la fin du monde. C'est qu'aujourd'hui, les talents, ils s'exportent de partout. Le soccer est mondialisé et que ça fait en sorte que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou non, le talent, il se nivelle quelque peu et que maintenant, on est capable de créer la surprise. Alors, je pense que c'est ça qui ressort de cette Coupe du Monde, en dehors du fait que, de ce que j'entends de beaucoup de journalistes, elle a été, entre autres, très bien organisée par ailleurs.
Et malgré l'élimination hâtive de joueurs comme Messi, Ronaldo, Neymar, les gens ont continué de suivre la Coupe du Monde. Ça a été, on peut pas dire que la perte de ces grands joueurs vedettes un peu plus tôt dans le tournoi a vraiment fait ombrage à cette finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Un petit mot sur l'impact, Vincent? As-tu le goût?
Ben oui,
la tête un peu à l'impact?
Oui, quand même. J'ai les pieds sur terre. Encore.
Vincent, victoire quand même convaincante hier de 2-0. Ça n'a pas été parfait pour l'impact de Montréal, mais petit train va loin. On avance, on va dans la bonne direction. J'ai eu la chance de parler avec des gens hier soir après le match. Écoute, il y a des choses qu'on est en train de voir chez l'impact qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le passé. Notamment, on utilisait beaucoup les longs ballons, qu'on ne gagnait malheureusement presque jamais, étant donné qu'on n'a pas vraiment de joueurs de grande stature comme à l'époque de Drogba et tout cela. Là, on commence à voir de la construction de jeu. Souvent, Evan Bush, plutôt que d'y aller d'un long dégagement, va tout simplement remettre vers Samuel Piette. Et là, on choisit une aile ou une autre. Et des fois, ces permutations, souvent, le ballon se promène d'une aile à l'autre, chose qu'on voyait pas dans le passé, et on construit avec les triangles qu'on a sur les deux ailes, et ça commence vraiment à fonctionner. C'est quelque chose de complètement nouveau là, chez l'Impact de Montréal, faut le dire.
Mais je suis content que tu le notes parce que je pense que c'était. On parle souvent de l'effet Rémy Garde ou de l'effet que pourrait avoir Rémy Garde ou l'effet qu'on attendait qu'il ait sur l'Impact de Montréal. Parce que quand tu fais venir un entraîneur étranger qui a un certain CV en Europe, etc., tu t'attends à une certaine révolution, à ce que tu vois des choses sur le terrain que tu ne soupçonnais même pas ou que des joueurs se trouvent transformés. On va se le dire, Jérémy, d'entrée de jeu, cette saison, ça n'a pas été le cas, loin de là. Sauf que dans un match comme hier, on a pu voir la différence justement entre une équipe de l'Impact qui était bien organisée, à défaut d'être géniale, hein, parce que ça n'a pas été le meilleur match de l'Impact, mais dans une semaine de trois matchs où il y avait un élément de fatigue qui était certain, le fait de pouvoir le remporter, et même en se faisant un petit peu peur par moment, et de le remporter de cette manière, je trouve quand même que c'est satisfaisant, puis on ne va pas chicaner sur la manière, l'important c'était le résultat, mais l'Impact était organisé et moi je voyais en face cette équipe de San Jose. J'ai absolument rien contre l'entraîneur Michael Stareux, mais cette équipe de San Jose ne s'en va nulle part. Quand on regarde que elle a que deux victoires cette saison, qu'elle restait sur 9 matchs sans succès, moi je la regardais sur le terrain, je comprenais pourquoi. Elle était tellement étirée, laissait tellement d'espace aux joueurs montréalais qui, eux, savaient davantage quoi faire sur le terrain, se trouvaient mieux, combinaient mieux. Alors voilà, je trouve qu'on a vu une différence d'organisation qu'on peut donner, en l'occurrence, crédit à l'entraîneur. Des fois, c'est un petit peu plus nébuleux qu'est-ce qu'on peut donner comme crédit à l'entraîneur ou aux joueurs. Là, en l'occurrence, je pense que le dispositif tactique, la rigueur avec laquelle l'Impact joue en ce moment, et ça finit par payer par les résultats. En partie, on peut vraiment l'attribuer à Rémy Garde.
Mais écoute, autant en début de saison, on a lancé la pierre à Rémy Garde parce que l'équipe ne jouait vraiment pas bien. Maintenant, ce qu'on est en train de voir sur le terrain, ça vient directement de l'entraîneur et il faut lui donner le crédit qui lui revient. Ça, c'est certain. Maintenant, on tourne la page temporairement sur la saison MLS, soit dit en passant, l'Impact qui demeure au sixième rang, mais non seulement cela, mais s'approche de la Nouvelle-Angleterre à un point seulement et à trois points de Columbus qui est quatrième. Donc, ça commence à devenir drôlement intéressant cette saison MLS. Là, on se tourne vers le championnat canadien, vers Vancouver. T'as peut-être entendu Rémy Garde après le match dire on pense que, par exemple, Rod Fanny devrait être capable de revenir en force dès mercredi. Donc, étant donné qu'il n'a pas joué hier, on pourrait le voir dans ce match numéro 1 de cette série aller-retour contre Vancouver. Donc, assurément qu'il y aura encore une fois une certaine rotation, mais j'ai l'impression qu'on va avoir sur le terrain au moins 5, 6, voire peut-être 7 titulaires réguliers et peut-être faire quelques substitutions pour ce premier match. Est-ce que tu le vois comme ça?
Ça, vraiment, j'ai encore de la difficulté à savoir exactement, parce que c'est difficile de se mettre dans les souliers de Rémi Garde et de se dire qu'est-ce que je ferais à sa place là. Parce qu'il y a un match à Portland la semaine prochaine. Comme tu dis, ça va bien en MLS actuellement. Ouais. L'appétit vient en mangeant. On regarde plus seulement en arrière, on regarde devant. Tu l'as dit, la cinquième place, elle est pas loin. La quatrième également, surtout Columbus a le même nombre de matchs que l'Impact, seulement 3 points devant. Écoute, t'as raison, cette saison, elle devient intéressante. Est-ce que c'est possible d'aller faire un résultat à Portland? C'est possible, mais bon, si une certaine logique est respectée, ça fait partie des matchs que, normalement, écoute, sans être triste en disant ça, normalement ça fait partie des matchs que l'Impact est amené à perdre parfois. Un long déplacement à Portland, ça c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis 11 matchs. On s'entend que si on met de l'argent sur une victoire, a priori on va en faire de l'argent sur ce match-là. Ouais. Donc est-ce que Rémi Garde il continue avec la priorité MLS parce que ça va bien et parce qu'il faut pas relâcher, ou est-ce qu'il se dit, écoute, j'ai un peu plus d'envie d'aller avec le championnat canadien, c'est un match à Montréal, au Stade Saputo, devant les partisans, et on va essayer de prendre une avance lors du premier match, puis de toute façon, à Portland, c'est pas forcément le match que je pensais gagner en priorité, et puis c'est là où je vais envoyer un peu plus de rotation.
Oui.
Ou l'inverse.
Ben, moi, je pense que c'est ça. C'est ça que je ferais. Moi, je pense que c'est comme ça que je le regarderais, parce que je suis d'accord avec toi. Le match à Portland, on va se dire les vraies affaires. Si l'Impact sort de là avec un match nul, on va être hautement satisfait. Avant de te laisser partir, Vincent, pour faire un lien entre la Coupe du Monde et ce qu'on a vu dans les rues de Montréal aujourd'hui et l'Impact de Montréal. Bon, tu as vu les images probablement comme moi. Je sais pas d'où tu as regardé le match exactement, mais écoute, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers d'amateurs de soccer français dans les rues de Montréal aujourd'hui, un peu partout, qui ont célébré cette victoire. Comment faire pour amener ces gens au Stade Saputo? Parce qu'encore une fois, hier, Vincent, seulement 15 000 spectateurs. On dirait que plus l'Impact gagne, moins il y a de monde au stade. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour convaincre ces Français de dire pourquoi pas aller faire un tour au Stade Saputo? Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, écoute, il y a des solutions plus ou moins simples à travers ça. Écoute, la plus simple d'entre elles, Jérémy, et je sais que tu me rejoins là-dessus, écoute, qu'est-ce qui s'était passé quand Didier Drogba était à l'Impact de Montréal? C'était plein à tous les matchs.
Écoute,
c'était plein à tous les matchs.
Je réfléchissais à ça ce matin, Vincent, et je me souvenais du nombre de textos que je recevais. As-tu des billets pour l'Impact?
Mais oui! Mais oui! C'était simple. Tu te posais même pas la question parce que chaque match était un événement. Chaque match était l'opportunité d'aller voir un Didier Drogba. Fait que ça, c'est la solution la plus simple. Si tu veux faire venir quelqu'un, de la même manière que DC United, quand ils ouvrent leur nouveau stade, bah, ils essaient de faire coïncider ça avec l'arrivée de Wayne Rooney, puis de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est la solution simple. Bon, si tu me parles des Français en tant que tels, il y a des attaquants français que tu peux aller chercher. Jimmy Briand, c'est peut-être pas celui qui fait le plus rêver les Français, je te le cache pas. Par contre, c'est un profil parfait pour l'Impact économiquement et pour la MLS au niveau du style de jeu. Mais si tu vas chercher un gars, par exemple, comme André-Pierre Gignac, je pense que qui joue au Tigres, là, qui joue au Mexique en ce moment, qui s'est déjà exporté, au niveau du caractère du bonhomme, du personnage, de la passion, ça, c'est le gars qui va te mettre un but, puis il va aller sauter dans la foule après, puis il peut embraser la foule de l'Impact de Montréal, faire venir des Français. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux niveaux de lecture. Soit tu fais venir une super vedette, soit tu joues le jeu de la patience, parce que qu'on le veuille ou non, l'Impact, ça reste un club qui est jeune dans la mémoire et dans les cœurs des sportifs montréalais, puis que ça prend des souvenirs collectifs pour qu'il y ait quelque chose qui se crée. Mais ça, il n'y a rien qui remplace l'histoire, on le sait très bien.
Vincent Destouches, merci beaucoup de nous avoir donné du temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Retourne célébrer. Encore une fois, félicitations. en espérant que tu vas avoir des souvenirs de cette journée le reste de ta vie, bien sûr, toi et tes enfants aussi.
Ça s'oublie jamais, tu le sais, Jérémy, toi-même.
Excellent. Merci beaucoup, Vincent.
Bye bye.
Salut. Bonne fin d'après-midi. On s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, on va jaser avec notre collègue Maxime Sarrazin qui, lui, a passé la journée dans les rues de Montréal. Je crois qu'il était du côté de l'île Sainte-Hélène pour vivre ce beau moment. Il va nous exprimer et nous expliquer ce qu'il a vécu aujourd'hui. Vous écoutez les amateurs de sport week-end sur une station Cogeco.